J'ai toujours appelé mon père par son prénom. Papa, c'était au-dessus de mes forces. C'était ma manière à moi de montrer un peu que je lui en voulais, de dire sans dire. J'étais en train de jouer sur le tapis du salon à construire une maison en carton.
Ça peut pas être la maison du grand scoop, c'est sûr.
Quand j'avais 5 ans, je lui avais trouvé ce surnom, le grand Schtroumpf. C'était plutôt gentil en fait, parce que en vrai, c'était plutôt Gargamel.
Parce que pourquoi elle devrait avoir quelque chose ?
Ça m'a rappelé ce film que j'ai vu quelques mois après la mort de mon père. C'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand.
Tu crois que je vois pas que tu te fous de ma gueule ? Vous habitez à la ZUP, c'est ça ?
Non.
Le petit garçon a 10 ans. Et lui, il dit l'autre pour parler de son père.
T'es devenu aussi menteur que ta mère. T'es pourtant pas moins intelligent qu'avant, non ?
Je suis restée scotchée devant ce film.
Regarde-moi quand je te parle.
C'est la première fois...
C'est chez son mec ?
...que je vois mon enfance racontée au cinéma.
Tu sais, ta mère, elle a une bombe entre les mains qui va lui exploser à la gueule. Parce que tout ce qu'elle fait depuis le début, elle a pas le droit de le faire. Tu comprends ça ? Et elle va le payer, je peux te dire, elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi. Je suis ton père ! J'ai le droit de savoir où tu vis, non ? Hein ? Regarde-moi quand je te parle ! Regarde-moi !
Ça veut dire quoi, au juste ? Je suis ton père.
C'est où ?
Quand mon père me dit ça, qu'est-ce qu'il croit que ça lui donne comme droit ?
Tout droit. C'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent comme ça, enfin qui sont jamais vraiment parties de ma mémoire, même d'enfant très jeune, du style « les enfants n'ont pas de droit ». Ça, c'était quand justement j'étais à l'école primaire, je venais toute contente parce qu'on avait vu enfin les droits des enfants et on avait un petit dessin avec 10 droits des enfants et moi j'étais super contente de découvrir que ça existait. Et évidemment, on m'a presque envoyé le papier à la figure en mode « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les enfants n'ont pas de droit, c'est quoi cette connerie, quoi ?» Il y avait des phrases comme ça que mon père pouvait dire du style « j'ai droit de vie et de mort sur toi » ou bien « ici, je suis Dieu après Dieu ». Ça, c'était « il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça ».
Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Cinquième et dernier épisode. L'autre.
Lorsque le roi de la maison, le chef...
Moi, je suis Pierre-Guillaume Prigent, je suis docteur en sociologie. J'ai fait une thèse sur les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale.
Un roi décide dans un royaume... Et en fait, on a toujours l'impression que le royaume, on peut séparer les parties, alors que les sujets du roi, que sont la mère et les enfants, sont soumis aux mêmes règles. Lorsque un homme violent hurle sur madame, les enfants, il n'y a aucune raison qu'ils ne l'entendent pas aussi. Lorsque monsieur prend sa figure de tyran, il la montre pas uniquement à une personne, et tout en la cachant aux autres. Il crée un climat de peur et d'insécurité pour reprendre... le modèle de la stratégie de l'agresseur du collectif féministe contre le viol. L'agresseur dessine un cadre, la victime doit rester dedans, si elle en sort, l'agresseur légitime le fait d'exercer de la coercition contre elle. Harcèlement, humiliation, violence physique, etc. Des enfants qui ont peur de leur père violent, qui marchent sur des œufs, sont dans la même vigilance que les femmes victimes de violences conjugales. Ce sont les mêmes mécanismes. L'homme instaure une autorité qui a des impacts sur l'ensemble de la maisonnée.
Oui.
Myriam ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi.
Quand il y a une séparation...
Sors, on va en parler.
Et même quand le père est violent...
Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Mais
la justice oblige souvent l'enfant à aller le voir.
Écoute, je veux pas que ça se passe mal.
Au moins un week-end sur deux. Et quand la mère essaye de protéger l'enfant...
Antoine, il est vraiment pas bien.
C'est souvent elle qui se retrouve poursuivie.
Je sors pas, non.
Pour non-représentation d'enfant.
En fait, on a souvent des situations où ça commence à se compliquer pour les femmes quand elles allèguent des violences, quand elles dénoncent des violences. Les choses vont se jouer à ce moment-là. Est-ce que la plainte ou les allégations vont être entendues ou prises en compte ou pas? En fait, on a cette idée-là que finalement, à partir du moment où une femme présume ou dit qu'il y a des éléments qui pourraient nous faire penser que monsieur est dangereux, eh bien, si jamais ça tombe à l'eau, on va finir par dire que c'est madame qui est dangereuse du fait de dénoncer des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, si jamais, de fait, les plaintes sont classées, ou si jamais des doutes commencent à exister et à apparaître par rapport à madame, là, le risque qu'elle perde la résidence des enfants est fort.
Mais comment c'est possible, une telle inversion de la culpabilité? Eh bien, je découvre que ça a carrément été théorisé par la psychiatrie. Je tombe des nues. Ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale. En gros, si un enfant rejette son père, c'est que sa mère est aliénante, qu'elle le manipule. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire que cette notion, elle est inutile et dangereuse. Elle n'est plus utilisée explicitement par les tribunaux. Mais elle persiste, un peu partout, sous des formes détournées. Et notamment ce mot de « fusionnel » que mon père me rabâchait. Eh bien, il vient de là, en fait. Et encore aujourd'hui, il sert à accuser les mères et à délégitimer la parole des enfants.
C'est une manière de qualifier des situations à partir de critères sans jamais examiner les hypothèses alternatives, comme par exemple la violence conjugale. En fait, elle va attribuer systématiquement l'éloignement à un processus d'aliénation. Mais nous, on dit qu'un éloignement peut être tout à fait légitime en situation de violence. Un enfant ou une mère peuvent vouloir de la distance avec le père au nom de leur protection, et c'est une raison tout à fait légitime, que l'on ne peut pas qualifier d'aliénation parentale. C'est très compliqué de se dire qu'on puisse retirer des droits de manière permanente. Les gens trouvent toujours une raison de ne pas le faire. Et en dernier lieu, c'est « oui, mais quand même, l'enfant, il aime son père, ou alors l'enfant, il aura besoin de lui ». Donc il faut quand même envisager une reprise des contacts. Un juge peut décider de donner une visite médiatisée à un parent pour qu'il voie son enfant. En fait, les visites médiatisées, le plus souvent, ont lieu dans des centres qui sont prévus pour ça. Vous avez des travailleurs sociaux qui vont accueillir le père et l'enfant, qui vont le mettre dans une pièce et qui vont rester à proximité pour regarder si les échanges se passent bien. Ça peut durer 2 heures, par exemple. On se dit, visite médiatisée, ça va, et en fait, les enfants, ils mettent plusieurs jours, voire plusieurs semaines à se remettre du contact avec le père violent. Et ça, en fait, il faut le dire, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'un enfant a besoin de ses deux parents pour se développer. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que le développement d'un enfant est impacté négativement par la présence du père violent et du maintien du lien avec le père violent.
C'est sûr que, quand c'est possible, il vaut mieux avoir ses deux parents. Mais comment ça se fait qu'on ne pèse jamais le pour et le contre? D'un côté, ce qu'un père, même violent, peut effectivement apporter à l'enfant, mais de l'autre, comment il peut le détruire? En fait, j'ai l'impression que, systématiquement, on privilégie le droit du père, son droit d'homme, à disposer de son enfant, comme bon lui semble.
La pseudo-théorie de l'aliénation parentale, je pense qu'on peut l'analyser aussi comme une forme de l'antiféminisme ordinaire. Moi, je m'appelle Gwenola Sueur, je suis actuellement doctorante en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Auparavant, j'ai été écoutante sociale dans des structures de mères séparées et divorcées. Et avec Pierre, depuis 2017, nous avons débuté une étude sur les usages sociaux de l'aliénation parentale en France. On retrouve des formes d'antiféminisme ordinaire à la lecture de rapports de travailleurs sociaux. Ils vont décrire la féminité de madame, c'est normal. Une mère doit être féminine, Elle doit tenir sa maison de telle manière, je ne parle pas de toutes les travailleuses sociales, il y a des travailleuses sociales qui font bien leur travail, mais on peut avoir une attente par rapport à comment va être élevé l'enfant. Et on va estimer que l'enfant doit être élevé dans une maison propre et bien tenue. On doit vérifier la date de péremption des yaourts. Il y a des attentes comme ça. En gros, l'antiféminisme ordinaire, c'est classer les femmes selon certaines catégories. Donc on va avoir par exemple la femme parure, la femme mère, la femme enfant, etc. Donc il y a plusieurs catégories de femmes. Et de fait, l'usage de cette théorie, qui est une théorie misogyne, antiféministe, c'est remettre dans le cadre les mères après la séparation. C'est vraiment ça. Donc la femme autonome, elle veut effectivement quitter le conjoint, elle a une certaine autonomie, etc. Non, non, il faut la remettre dans le cadre. Il faut qu'elle soit la femme mère, mais mère telle que monsieur veut qu'elle soit et telle que la société aussi veut qu'elle soit. Parce qu'en fait, enfin, la pseudo-théorie de l'aliénation parentale, ça s'appuie aussi sur nos représentations de ce que devrait être la femme et de ce que devrait être la mère. Ça s'appuie aussi sur les stéréotypes de genre, les attentes qu'on peut avoir d'un père, d'une mère, etc., d'un enfant. Ça se nourrit de ces stéréotypes-là pour pouvoir ensuite contrôler les femmes et les enfants après la séparation.
La psychanalyse a un rôle important comme fondement théorique des théories misogynes. En fait, toute la psychanalyse ne l'est pas. Je pense que des psychanalystes aujourd'hui peuvent se dire féministes et essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que la psychanalyse n'a pas de fondement scientifique. Donc pour évaluer les situations, c'est assez problématique parce qu'il nous faut quand même des outils validés. Mais effectivement, elle fournit des arguments à des experts judiciaires qui, si jamais la mère n'est pas aliénante, est fusionnelle, ceci ou cela, ou alors narcissique, n'a pas réussi à intégrer le lien avec le père, ou des choses comme ça. La psychanalyse est un appui fondamental à la misogynie dans les tribunaux de la famille, dans les expertises judiciaires.
Et puis il y a aussi cette injonction à la coparentalité, cette injonction à qu'il faut à tout prix que les parents s'entendent après la séparation dans le meilleur intérêt de l'enfant, en occultant la violence conjugale, fait que les dames, elles vont être sous contrôle, en fait. Elles ont cette épée de Damoclès-là, cette peur que des violences soient exercées sur l'enfant, et cette peur qu'on ne les croit pas si elles verbalisent des violences, et cette peur qu'il y ait un transfert de résidence. Cette menace-là, elle est présente, en fait. Donc si la base, c'est la coparentalité, on est déjà dans un piège. Il faut aussi voir qui a mis en avant cette notion. Donc on voit qu'il y a des discours d'associations qu'on pourrait classer aujourd'hui comme associations antiféministes ou associations masculinistes. Mais ce sont ce type d'associations qui ont mis en avant la coparentalité.
Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h30 hier soir dans l'appartement familial qui se trouve au 5e étage de l'immeuble juste derrière moi.
Juste au moment où je termine le montage de cet épisode, l'actualité me rattrape.
Lors d'une dispute conjugale, ce père de famille aurait donc jeté ses deux enfants âgés de 5 et 2 ans par la fenêtre avant de se donner la mort en se défenestrant lui-même. Selon une source policière, ce couple était connu pour être un terreau de violences conjugales mais aussi de violences intrafamiliales.
Bah, quand on les voyait à l'extérieur, franchement, ils avaient l'air d'être heureux. C'était des personnes gentilles, surtout lui. C'était un papa fusionnel. Il était toujours avec ses enfants. Il leur achetait toujours plein de bonbons. Enfin, il était drôle, il était gentil. Non, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, vraiment.
Ironie de l'histoire, ce meurtre a eu lieu tout près de mon groupe de parole. Et il s'inscrit dans une longue série.
La première association de pères séparés en France s'est créée suite à l'affaire criminelle de Cestas. On est en février 1969 dans la région de Bordeaux, dans une commune rurale à côté de Cestas. Et un père prend en otage ses 3 enfants pour la 3e fois. Une de ses enfants s'échappe et prévient la mère et les gendarmes. Lui, auparavant, il avait écrit à la mère des enfants et il avait écrit aux gendarmes pour leur expliquer qu'il rendrait les enfants à condition que son ex-femme, donc ils étaient séparés, divorcés, revienne à la ferme, prenne la place des enfants et là, il pourrait la tuer, en fait. Au bout de quelques jours, il va finir par tuer un gendarme et là, en fait, l'affaire va faire la une des médias du monde entier. Il va y avoir des négociations avec un groupe d'hommes Mais cette négociation va se transformer en légitimation de la prise d'otage, parce qu'on va présenter ce père comme un pauvre papa qui aime ses enfants, etc. Les négociations vont échouer, et puis les gendarmes vont partir à l'assaut de la ferme, et lors de l'assaut de la ferme, le père va tuer ses deux enfants et se suicider.
J'ai hésité à parler de ces infanticides, même si c'était ma hantise quotidienne, en fait. Après tout, c'est des cas extrêmes, des déséquilibrés. Mais j'ai compris que ce ne sont pas des faits divers. C'est la clé de voûte de tout un système. C'est à la fois la version extrême d'une violence banale et le repoussoir ultime, en quelque sorte.
En fait, le fait de présenter cette affaire comme l'acte fondateur du mouvement des pères, ça nous renseigne sur leur manière de légitimer la violence conjugale. Ils vont mettre en avant quelque chose d'extraordinaire. C'est le terroriste intime. On va avoir une représentation de ce que serait l'homme violent, hyper contrôlant, etc., qui bat sa femme, ou alors ça va être la personne racisée, ou alors ça va être la personne qui vit dans un territoire rural. Et du coup, la majorité des situations de violence conjugale, où il n'y a pas une intensité de violence conjugale, hop, celles-là, elles vont passer sous le tapis. Donc c'est mettre en avant une affaire extraordinaire pour dire « oui, mais finalement, si on regarde bien, c'était quand même un bon père. » Ok. Mais cette stratégie-là, c'est une menace. Si j'ai pas la résidence alternée, je tue les enfants. C'est une menace pour toutes les femmes, en fait.
Pourtant, il y a des choses qu'on peut faire. Et ce n'est pas si compliqué. Mais oui, pour ça, il faut d'abord se dire que la violence conjugale, ça existe. Et même, c'est banal. Se dire que l'agresseur, ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas l'autre.
Déjà, systématiquement, vérifier s'il y a violence conjugale ou pas. Et on voit que dans le cadre, que ce soit une expertise psychologique ou le cadre de l'enquête sociale, on n'a pas été vérifié s'il y avait violence conjugale. On va voir une dame qui a peur du conjoint, on va pas se dire « tiens, c'est bizarre, elle a peur du conjoint ». La question est même pas posée. Donc on voit qu'en fait, il y a aussi une représentation de ce qu'est la violence conjugale pour les travailleurs sociaux judiciaires, avec l'idée qu'il y aurait des violences qui sont acceptables pour pouvoir élever un enfant, en fait. Et d'autres violences, on se dit « non, là, quand même, monsieur a essayé de l'assassiner, monsieur a essayé de l'étrangler, et encore, l'étranglement n'est pas toujours considéré comme une violence physique importante et voilà, digne d'enlever l'autorité parentale conjointe au père violent. » Donc on voit qu'en fait, il y a des seuils de violence acceptables, alors que le processus de domination conjugale, que la violence soit intense ou pas, va impacter la victime et va impacter l'enfant aussi. Donc point barre, est-ce qu'il y a ou pas violence conjugale? Et s'il y a violence conjugale, bah on protège les victimes, point barre, on les protège.
Très très tôt, c'était insupportable en fait pour moi d'obéir à des lois, des ordres, sans comprendre pourquoi. Mais par contre, ce que je comprenais, ce que j'observais, c'était que si j'obéissais pas, ben c'était la punition, quoi. La punition aussi sous forme de mutisme. On parle souvent justement des violences qui sortent par la voix, mais le mutisme est notamment par exemple de dire là t'as ta semaine, et t'as ta semaine, ça veut dire pendant une semaine je vais t'ignorer, je vais pas te parler, et voilà, c'est ta punition, parce que t'as pas fait ci, ou t'as pas réagi comme il fallait. Et c'est vrai que quand on se construit comme ça et tout, bon, ça engendre beaucoup de peur, mais je dirais qu'aussi ça engendre beaucoup de révolte, et l'idée de combattre les injustices familiales, elle a grandi dans ma tête, très fortement, et elle a tellement grandi que j'ai voulu en fait devenir juge pour enfants. Quand j'avais 9 ans. Pour moi, c'était évident, normal, sauf qu'en fait, tous les copains-copines disaient « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'était « Mais t'es bizarre, pourquoi tu penses à un métier comme ça ?» Et ça, ça ne m'a pas quittée pendant des années et des années. Et du coup, avec une personne comme le juge Édouard Durand, que j'admire beaucoup et que je trouve très intéressant, je me dis « Ah, oh, si seulement il y avait une personne, un juge qui avait parlé comme ça à l'époque, ça m'aurait fait quand même du bien, quoi. » Voilà.
Pourquoi les adultes devraient décider à la place des enfants de manière systématique? Le maintien de l'autorité parentale conjointe, c'est le maintien d'une autorité parentale, d'une autorité d'adulte, quand bien même elle est illégitime. Donc en fait, la façon qu'on a de qualifier les choses révèle l'angle mort de la domination adulte. Imaginons une société dans laquelle où habite l'enfant n'est pas déterminé par ses parents ou par un juge, et que c'est lui qui a décidé de vivre là où il le souhaite, et qu'on lui a donné les moyens de le faire aussi. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer un revenu humain, en fait, c'est-à-dire que toute personne peut avoir un revenu, quel que soit son âge, et disposer de cet argent de la manière qu'elle le souhaite. Évidemment, on ne peut pas dire à un enfant qui a 8 mois qu'il est en capacité de gérer son compte bancaire. Mais au-delà de la question biologique, de la question développementale, qu'on doit prendre en compte, certes, il y a cette question-là du droit, et je pense que c'est parce que, justement, on naturalise aussi trop quand on dit la violence conjugale atteint le développement des enfants. Oui, mais leurs droits aussi, leur capacité à s'autodéterminer, leur capacité à défendre des droits politiques, leur capacité à défendre leur intégrité, à se mettre en collectif, à avoir leur mot à dire, c'est ça que la violence conjugale atteint, pas juste leur développement. Donc si jamais on politisait la question, on se dirait, oui, en fait, il faut donner aux enfants, comme on donnerait aux femmes, les moyens de subsister indépendamment du contrôleur, de celui qui décide pour elles et pour eux. Et donc là, effectivement, on est sur des questions matérielles, concrètes. La question du logement, la question de l'argent, la question de la nourriture. Et là, pour le coup, à partir du moment où on se dit ça théoriquement, on se dit, mais comment on pourrait envisager concrètement que ça se passe? En tout cas, c'est très fertile et ça permet d'ouvrir des pistes et ça donne de l'espoir, je pense, justement, d'envisager des transformations radicales.
Qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui a vécu dans un contexte de violence conjugale? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet enfant, co-victime, comme on dit?
Qu'on n'est jamais foutu. C'est vraiment important parce que on est dans des situations où il faut reconnaître la violence que c'est. Il faut reconnaître les impacts que ces violences ont sur le développement, oui, des enfants, mais sur leur trajectoire et sur le futur. Mais si jamais on est dans des discours qui peuvent parfois être dits à fixer le destin des personnes, à leur dire « tu as vécu ça, donc tu auras des traumas », je pense qu'on fait l'exact inverse de ce qu'il faut faire. Effectivement, il y a des gens qui disent « on ne guérit jamais ». Alors, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais je sais qu'il y a des gens qui vont quand même plutôt pas mal aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ou elles ont vécu ça. En tout cas, ça nous marque, mais il y a des gens qui en font quelque chose. Et en fait, même au moment où ça se passe, les personnes, elles en font quelque chose. Que ce soit les femmes ou les enfants victimes, il faut aussi les aider à comprendre, et je pense qu'elles le savent, qu'au moment où ça se passait, ça, c'est des personnes qui résistaient. Elles disaient non, parfois. Elles faisaient des choses, en fait. À ce moment-là, elles faisaient, mais qu'elles continuent à faire ces choses-là. Moi, dans ma thèse, plein de femmes avec qui j'ai fait des entretiens ont vécu ça, mais se sont dit « je vais en faire quelque chose ». Elles sont devenues féministes, elles ont rejoint des associations, et elles ont transformé cela en quelque chose de meilleur.
Après avoir réfléchi, après avoir lu des livres, des articles, échangé avec d'autres enfants, été dans des groupes de parole éventuellement, avoir vu un film, je pense au film Jusqu'à la garde, se dire que tout ça, cette expérience-là, elle est là. On ne pourra pas la mettre de côté, elle est là. Juste, il y a toujours moyen de transformer cette merde, quelque chose qu'on a pu ressentir comme quelque chose de sale, parce que c'est ça la violence conjugale, c'est ça l'exposition à la violence conjugale, cette impression que c'était sale, qu'on est dégradé, qu'on est déshumanisé. Il y a ce côté-là, et c'est peut-être pour ça que des femmes, des enfants, ne verbalisent pas, parce que c'est sale, ça va les stigmatiser. Avec tous ces échanges, ces lectures, ces conversations avec d'autres personnes, on va transformer ça en or. On va en faire quelque chose. On va faire un podcast, on va faire de la recherche. Et au niveau de la recherche, Il y a peut-être tout un travail à faire. C'est quoi son point de vue situé? Qui on est? Pourquoi on fait cette recherche? Et le dire? Et expliquer comment on a fait pour faire un pas de côté? Parce que c'est dur. Tout ça fait qu'on va transformer ce qui est sale, ou ce qui nous semblait sale, en or. On va en faire quelque chose.
Natar kiedzie wóz i wiezie, ciele co smutne oczy ma. Nad nim w górze hen jaskółka, fruwa zwinnie po niebie gna. Ach, i jak wiatry śmieją się, szaleją góra dół. Śmieją się przez cały dzień i letniej nocy. Mais c'était un bon père. Donna, 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 donna. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Donna, 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 donna. Avec le soutien de la bourse Brouillon d'un rêve sonore de la SCAM. Merci à elle.
Et alors peut-être pourquoi avoir souhaité participer à ce podcast ?
Ça rejoint plusieurs choses que j'ai dit à Thomas au tout début quand il m'a présenté son projet. C'est que je trouve que c'est hyper important que ce soit pas tabou. Et il y a plein de fois où c'est hyper difficile pour moi d'en parler, pour plein de raisons qu'on a évoquées. Casser l'ambiance, perdre des amis, choquer... Mais je pense que briser les tabous autour de ça, de briser la banalisation de ça, c'est ce qui me motive et qui me fait trouver la force de faire ça, parce que je crois qu'il nous en faut. Et que ça rejoint aussi les combats et les engagements sociaux que j'ai et qui sont de l'ordre de bah, « je veux plus que ça se reproduise » et si je peux apporter une petite pierre en participant à ça, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui, en écoutant le podcast... reprend son souffle, ben ce sera déjà énorme quoi.
Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent.
Comme souvent quand je prends une décision, je réfléchis pas forcément à dans quoi je me lance et pourquoi. Et souvent j'y goûte pendant l'expérience. Et là, les deux raisons pour lesquelles j'ai dit oui, c'est le truc de bon élève, il y a une proposition, on va le faire. Et en même temps, très égoïstement, je me suis dit, c'est des groupes de parole en bonus. l'occasion d'encore plus vider mon sac encore plus souvent. Donc vraiment, j'ai pensé qu'à ça.
Merci à Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent.
Et c'est plus, je crois, peut-être la semaine avant la première fois qu'on s'est parlé en étant enregistré où je me suis dit... Je crois qu'une fraction de seconde au tout début, j'ai eu un peu peur. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant de se dire que d'autres personnes vont entendre ça parce que c'est des choses que moi, j'ai jamais entendues.
Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya.
Quelques jours avant le premier enregistrement, j'ai ressenti un peu de stress. Je me suis dit, waouh, genre, on va m'entendre. On va m'entendre hors du, hors des cercles de parole, on va dire fermés, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que ça m'a un peu stressée. Parce que, voilà, peut-être peur d'être reconnue, des choses comme ça. Mais en même temps, je me dis, et alors ?
Merci à mes proches qui m'ont accompagnée tout au long de ce projet.
Alors, dans un premier temps, quand je me suis retrouvée confrontée à la question et que j'étais au groupe, franchement, j'aurais jamais osé dire « Non, je mets pas du tout mon mail sur la feuille, ça me fait flipper à mort, je me bats. » Tout le tracé, j'y ai pensé. Et après, je me suis dit « En fait, je pense que c'est un bon exercice qui était pas facile parce que du coup, le premier jour où je suis arrivée, j'avais envie de fuir. »
Et merci à vous pour votre écoute.
Mais du coup, je suis contente de l'avoir fait. Bon, clairement, je vais pas envoyer le lien à tout mon répertoire. Mais si c'est entendu, bah franchement, que ce soit entendu. Enfin, en fait, c'est ma vie, donc faut pas que ce soit un secret. En fait, j'allais dire que c'est pas un secret, mais oui, souvent, c'est un secret de polichinelle. Mais le chemin, c'est de parler, quoi.
Od ciele spętać zabić, niewiadomy jest zdarzeń splot, ale ten, kto ceni wolność, od jaskółki się uczy w lot. I jak wiatry śmieją się, szaleją góra dół, śmieją się przez cały dzień. Letniej nocy.